5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous. Dans votre émission Orion, chemin de l'espace, nous avons déjà évoqué beaucoup de sujets concernant la conquête spatiale et puis l'actualité du ciel et de l'espace. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de l'Asie dans l'espace, c'est ça Jean-Michel ?
Tout à fait, l'Asie avec des grandes puissances spatiales hein, comme la Chine, le Japon et même l'Inde.
Alors, pour commencer, on va peut-être faire un petit panorama des grandes puissances spatiales d'aujourd'hui, à côté de certains poids lourds. Qui aujourd'hui va dans l'espace ?
Ah ben, c'est la NASA. Hein. La NASA, c'est le poids lourd.
Oui.
Ensuite, bon, nous avons la Russie, et puis nous avons l'ESA, l'espace spatial européen. Donc ce sont les grandes puissances dont on parle souvent hein, quand on lance des sondes, des satellites. On va surtout parler de ce qui a été lancé par l'Europe, par l'Amérique ou par la Russie.
Donc les grands lanceurs, on peut les rappeler, il y a les Américains, il y a les Soviétiques puis les Russes maintenant.
Voilà.
Et Europe, essentiellement Ariane.
C'est Ariane. Ariane 5 actuellement en attendant la future Ariane 6.
Voilà, dont les budgets ont été plus ou moins débloqués. Si
c'est compris. En cours. Voilà. Ensuite, nous avons le petit lanceur Vega aussi, donc de Kourou, hein, qui lance des petites charges, des charges assez importantes, hein, mais qui est un petit lanceur très efficace.
Mais plutôt peu lourd, on va dire, et c'est la tendance d'envoyer beaucoup de satellites peu lourds actuellement.
C'est la grosse tendance actuellement, donc de lancer des petits satellites, on en a eu l'occasion d'en parler, de ces CubeSats, ces NanoSats. Alors là, c'est difficile à chiffrer, tant ils s'en lancent, hein, que ce soit toutes les puissances.
Oh, il y a combien de satellites actuellement autour de nos têtes ?
Alors, on va parler des satellites opérationnels, parce que depuis le premier Spoutnik en 1957, il s'en est lancé aux alentours de... On ne sait pas le chiffre exact, 5000. Hein. Il y a bien des gens qui ont comptabilisé un petit peu tout ça, mais on compte au moins 5000 satellites. Et j'ai un chiffre là, au 31 août 2015, donc des satellites opérationnels. Alors c'est vrai que c'est le chiffre du 31 août 2015, mais depuis le 31 août, il s'en est lancé
quelques autres.
Ah oui, il s'en est lancé quelques autres. On va y revenir. Donc le chiffre, ce serait de 1305 satellites opérationnels.
En ce moment.
En ce moment. Alors, comme on disait, le poids lourd, bien sûr, c'est les USA, hein, donc avec 549 satellites. Ensuite, en deuxième position, nous avons la Russie et la Chine. La Russie, 131, la Chine, 142, et les autres puissances spatiales, 483.
À elle seule. Et ça depuis le premier satellite qui date des années
4 octobre 1957.
1957. Et la tendance, effectivement, c'est une courbe un petit peu exponentielle.
Ah, c'est exponentiel.
On en lance de plus en plus et de plus en plus petits, mais de plus en plus commerciaux aussi.
Commerciaux, alors de plus en plus petits parce que ce sont des satellites qui sont plus rapides à mettre en œuvre, plus faciles à lancer, moins chers. Et puis après, bien sûr, il y a les gros satellites télécom, télévision, météo. Donc là, ce sont quand même des poids lourds. Là.
Alors, simplement, avant de regarder un petit peu ce qui se fait chez les Japonais, les Indiens, les Chinois, sur 5000 satellites lancés depuis le départ, que sont devenus ceux qui manquent, puisqu'il en manque quelque chose comme 3700 ?
Alors, si on parle du premier satellite, le Spoutnik, il a été lancé le 4 octobre. Il a fait quelques révolutions autour de la Terre et en janvier 58, il s'est détruit dans l'atmosphère. C'est vrai qu'il n'était pas très gros, 86 kilos, c'était pas énorme. Hein. Mais depuis, donc, tous ceux qui ont été lancés, suivant leur altitude, on va dire, hein, ceux qui sont en orbite basse, eh bien, ils sont descendus, ils se sont consumés dans l'atmosphère. Et puis, il y en a qui tournent toujours et qui sont inopérationnels et qui, on peut parler aussi de pollution de l'espace.
Oui, pollution de l'espace. Ça a une durée de vie de combien de temps, un satellite opérationnel, enfin classique, moyen ?
Moyen, c'est entre 5 et 10 ans.
Ah oui, ça vieillit vite. Donc,
ça vieillit vite.
Et ça meurt vite, donc, et ça meurt finalement en retombant sur la Terre quand il retombe
parce que vous avez des satellites qui ont été lancés il y a 20 ans qui sont toujours en orbite, on va dire des orbites un petit peu plus hautes, hein, orbite moyenne, hein, donc MEO on dit en termes spatial, donc qui tournent.
Bien, Jean-Michel, l'Asie et l'espace, donc on voit trois quand même pays qui rentrent effectivement dans les puissances spatiales. Donc on pourrait parler du Japon, de l'Inde et de la Chine. Alors commençons par le Japon. Que fait le Japon dans l'espace aujourd'hui?
Alors le Japon lance ses propres satellites et coopère à la Station spatiale internationale. Sa coopération à la Station spatiale internationale, c'est d'envoyer des hommes dans l'espace. C'est de ravitailler la station spatiale avec notamment le cargo HTV japonais. Donc nous avions les ATV européens qui ravitaillaient l'ISS. Vous avez les cargos Progress qui ravitaillent l'ISS. Les Américains aussi avec les capsules Dragon qui ravitaillent l'ISS. Donc la participation du Japon, c'est ce petit véhicule donc, qui emmène des charges avec de la nourriture, des expériences à destination de la station spatiale internationale.
D'accord, au passage on souligne effectivement une coopération réelle de l'ensemble des pays de la Terre, enfin.
Oui, parce que bon, pour l'instant, la Chine ne coopère pas à la Station spatiale internationale, mais le Japon a une grosse participation, donc notamment avec ses cargos. Ensuite, le Japon, a, on va dire, son propre GPS. Ce n'est pas tout à fait un GPS, ça s'appelle le Mishibiki, c'est de la géolocalisation, donc par satellite. Le Japon a des satellites météo, des satellites d'observation, donc c'est une puissance spatiale qu'il faut prendre en compte et qui coopère donc avec l'Europe, avec les USA.
D'accord. Cette histoire commerciale, finalement, de l'espace japonais, c'est quelque chose de récent ou bien ça a une histoire maintenant déjà un peu importante?
Oh, c'est une histoire depuis les premiers lancements de fusées japonaises, donc je n'ai pas la date en tête. Mais donc, il y a eu toujours une coopération, donc cette participation à la station spatiale, puisque nous avons des astronautes japonais qui sont allés dans la station spatiale.
Très bien. Et donc le Japon est une puissance peut-être plus ancienne, on peut dire ça, que l'Inde ou la Chine. En Asie, c'était un pionnier.
Le Japon a participé très rapidement, donc on va dire dans l'ordre, donc, c'est les USA bien sûr, l'URSS, après ça a été l'Europe, le Japon, voilà.
Eh bien, avant de passer à l'Inde et la Chine, on va faire un petit tour musical dans l'espace. Alors l'Asie dans l'espace, on a vu, il y a le Japon, Jean-Michel. Parlons maintenant de l'Inde, qui est quand même un pays très ambitieux, si j'ai bien compris, sur la conquête spatiale.
Exactement. L'Inde, donc, on n'en parle pas souvent donc, avec l'agence spatiale indienne, qui lance beaucoup de satellites.
Régulièrement, il y a longtemps, le dernier satellite indien.
Le dernier, c'est quelques jours, parce que c'est quand même un petit événement, parce que l'Inde a lancé AstroSat. C'est un satellite comme un petit peu pour les astronomes.
C'est bien ça. On rappelle quand même que Orion, Chemin de l'Espace, sont quand même des amateurs, astronomes de Haute-Loire, donc qui souhaitent partager leur passion. Donc effectivement, il y a l'espace, mais dans l'espace, il y a les étoiles et les astronomes sont gourmands de ces satellites là qui viennent éclairer nos lanternes.
Voilà, donc quand on parle d'observation des nébuleuses, des galaxies, du ciel profond, il y a tout de suite quelque chose qui vient en tête, c'est Hubble avec ses magnifiques images. Mais bon, Hubble observe pas dans le visible, hein, puisque c'est des combinaisons d'infrarouges, de rayons X. Or que AstroSat va pouvoir observer dans toutes ces gammes-là, hein, dans l'infrarouge, dans les rayons X, mais va observer aussi dans le visible. Donc, voyez que l'Inde, c'est pas un énorme satellite. Hein. Il a un miroir qui fait 37,5 de diamètre, 35 cm, c'est pas énorme, oui. Mais il a une longue focale. Et donc, il va amener des images très très intéressantes du ciel profond. Donc, pour ce petit pays, enfin grand pays, hein, petit pays spatial, grand pays.
Jeune puissance spatiale.
Jeune puissance,
mais ambitieuse.
Bon, ambitieuse, hein. Donc, vous voyez, la mission dispose d'un certain nombre d'objectifs scientifiques. C'est l'observation de cibles de plusieurs longueurs d'onde dans l'aide de 5 instruments, on va dire. Les observations porteront plus particulièrement sur les noyaux actifs de galaxies, les étoiles binaires, les amas d'étoiles et beaucoup plus.
Alors, il y a beaucoup de choses à voir. On pourrait faire une émission, d'ailleurs, sur les étoiles doubles, les étoiles binaires ou les systèmes multiples. Donc, AstroSat va nous montrer ça de plus près que Hubble.
Eh bien, c'est pas tout à fait bon le même diamètre,
les mêmes images,
les mêmes
plus,
images. Mais on est en attente. Hein. Je veux dire que bon, l'Inde a informé du lancement de son satellite, bien sûr. De toute façon, même si elle nous n'avait pas informé, on saurait que l'Inde avait lancé quelque chose, parce que aujourd'hui, dans le spatial, tout le monde surveille tout le monde.
Oui, parce que AstroSat, bon, on est quand même dans l'astronomie, on va dire, donc dans la science, enfin dans l'espace, l'univers. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres réalisations plus militaires, plus commerciales? Que vient de mener l'Inde.
L'Inde a des satellites d'observation météo, hein, très très importants pour sur toute la météo donc de la région, on va dire de l'Asie. Hein. Donc l'Inde a des satellites militaires, l'Inde a des satellites d'observation. L'Inde a aussi quelques informations sur son position, sur sa géolocalisation. Donc il y a énormément de satellites. Je n'ai pas le chiffre en tête du nombre de lancements indiens, mais l'Inde lance régulièrement des satellites. L'Inde a lancé aussi une sonde qui est en orbite autour de Mars. Donc, vous voyez ça, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle des poids lourds du spatial, mais pas de ces pays qui sont plus qu'émergents d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et militairement, il y a une coopération de l'Inde, comme on peut le voir par exemple avec le Japon, la NASA, les Soviétiques. Est-ce que l'Inde est présente dans ce type de partenariat ou bien...
Alors, l'Inde ne participe pas directement à l'ISS, hein, il n'y a pas de partenariat, mais il y a des expériences qui sont menées. Donc, on va dire que toutes les puissances spatiales mettent des projets en route sur du médical, sur de l'observation. Mais bon, peut-être qu'un jour, l'Inde coopérera avec la station spatiale.
Et les Indiens ont une base spatiale, ils ont un lanceur qui leur est propre ou bien ils utilisent d'autres...
Ils ont leur propre lanceur avec des fusées qui sont très très efficaces.
Et on a des Indiens qui partent de Kourou par exemple ou d'ailleurs?
Non, ils ont leur propre site de lancement donc sur la péninsule indienne. Voilà.
Alors maintenant la Chine, après le Japon, l'Inde, l'Asie et l'espace, et bien nous voici en Chine. Donc là c'est quand même un client, si j'ai bien relevé le nombre de satellites chinois actuellement, c'est significatif.
Alors je vous disais au 31 août 142, mais on va dire que depuis le 31 août, il s'est passé beaucoup de choses.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, puisqu'en septembre, la Chine a réalisé 5 lancements. Et là, elle vient encore d'en réaliser, donc début octobre, vraiment, on lance beaucoup du côté chinois.
Voilà, la Chine s'éveille.
Elle est bien éveillée.
Déjà bien éveillée. Les lanceurs, sont des lanceurs chinois
Ce sont des lanceurs chinois. Donc, alors, c'est toute la série des fusées Longue Marche.
Longue Marche.
De la base Zhoukiang.
Tout un programme. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs puissances.
Ils ont plusieurs lanceurs avec toute puissance. Hein, puisqu'il ne faut pas oublier que la Chine a quand même en orbite une petite station qui n'est pas habitée actuellement. C'est un petit module.
Mais qui est habitable.
Qui est habitable.
Ah bon. Hein,
oui. Donc, Tiangong. Et Shenzhou, donc palais céleste et vaisseau divin, donc petit vaisseau qui permet de se raccrocher à ce petit module qui tourne en orbite. Donc des Chinois sont allés dans l'espace, donc vous voyez qu'ils essayent de développer leur propre module en orbite, propre module habitable en orbite autour de notre planète Terre.
Oui. Je reviens sur ces lanceurs Longue Marche, donc en fait c'est une famille de lanceurs.
C'est une famille de lanceurs, différents lanceurs de petite puissance, de plus grande puissance.
Ouais, rappelle qu'en France, on a quelques fusées Ariane, mais on a aussi les fusées Vega. Donc, on a des lanceurs, j'allais dire, adaptés au poids. En Chine, tout est dans la Longue Marche, en fait.
La grande famille. Et donc, quand on voit un petit peu le module habitable chinois, ça fait penser aussi au vaisseau Soyouz russe. Hein, oui. Ça y ressemble beaucoup.
Donc, c'est pas très grand.
C'est pas très grand.
C'est pas très grand. Voilà. Et les navettes, enfin pas les navettes, c'est un mauvais mot, mais le ravitaillement de cette station spatiale, se ferait par les fusées Longue Marche.
C'est voilà des fusées donc qui lancent un petit peu ce module Shenzhou, qui se met en orbite et qui va se raccrocher à la station. Alors pour l'instant là, c'est vide, ça tourne en orbite. On peut voir les passages de ce module qui tourne donc sur des sites que je vous ai dit toujours comme le CalSky, c'est LSKY, donc vous cherchez Shenzhou et il passe de temps en temps au-dessus de nos têtes.
L'Asie et l'espace, Jean-Michel, et les Chinois en particulier, il y a eu des Chinois dans l'espace.
Il y a eu des Chinois en orbite.
Il n'y en a pas actuellement.
Non, il y en a eu. Hein, il y a même donc hommes et femmes, puisqu'il y a même une taïkonaute.
Une taïkonaute.
Taïkonaute chinoise.
On n'avait pas ça en magasin pour le moment à Orion Chemin de l'espace, mais... Donc, c'est chinois depuis pas mal de temps. Enfin,
ça fait quelques années. Ça fait 4-5 ans, on va dire, que les Chinois envoient des hommes dans l'espace.
D'accord. Donc, cette activité est relativement récente, on va dire, chez les Chinois, mais intense.
Intense.
On peut ça. Et puis ambitieuse, parce qu'on voit que envoyer des hommes, enfin, on sent qu'on prépare vraiment le terrain de la prochaine décennie ou des années à venir, en tout cas. Avec des projets ambitieux, parce que on entend parler des Chinois sur la Lune.
Hein, ça, c'est un objectif qu'a certainement la Chine.
Et d'ailleurs, il y a un robot, le robot U2 qui est actuellement sur la Lune.
Sur la Lune, le lapin de jade.
Qu'est-ce qu'on sait de lui,
les Chinois aiment bien donner ces noms un petit peu poétiques à leurs programmes spatiaux. Et ben, donc, ce petit robot est sur la Lune, il a fait quelques kilomètres, il a eu des soucis, il y a eu des pannes. mais il y a eu des observations, donc il s'est déplacé sur la Lune, donc preuve que cette puissance spatiale est capable de déposer un objet sur la Lune, de le faire déplacer, de faire des observations et de renvoyer des données.
Qu'est-ce que l'on sait de ce projet de Chinois sur la Lune après plusieurs décennies de sommeil, puisque la Lune était passée un petit peu en sommeil après les exploits des Américains et des Russes, d'ailleurs, enfin des Soviétiques à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait de ce projet chinois ?
Les Chinois sont assez secrets, ils communiquent relativement peu. Bon, comme aujourd'hui, je vous l'ai dit, chaque fois qu'on lance un satellite de n'importe quel point de la Terre, on ne peut pas le cacher, parce que comme tout le monde observe tout le monde, on voit très bien que quelque chose s'est lancé et dans quelle direction. Donc, la Chine a son programme spatial chinois. Son objectif est d'envoyer un homme sur la Lune quand... Ben les dates, on projette, hein, 2020, 2025, on ne sait pas.
Donc c'est relativement proche.
Enfin, c'est relativement proche.
On met dans le programme. Quoi.
Et quand on voit, je veux dire, 5 lancements en septembre, lancement en octobre, donc l'activité spatiale est intense.
Alors on s'observe les uns les autres. Les Chinois ont aussi leur GPS. Ils doivent avoir un nom un petit peu poétique.
Alors c'est le Peitu. Peitu, B-E-I.
On cherche la poésie, mais elle doit exister quand même.
Oui, alors Peitu, ça veut dire la grande ours.
Ah,
voilà. Vous voyez, il y a toujours, donc c'est un système de géolocalisation par satellite. Donc d'ailleurs, le lancement qui a eu lieu début octobre, c'est un lancement qui concerne le Peitu. Donc, alors ça c'est intéressant parce que c'est le GPS chinois. Quand on parle du GPS américain, quand on parle du GPS russe qui est le GLONASS, quand on parle du Galileo
européen,
quand on sait qu'il faut au moins 24 satellites opérationnels donc pour avoir une bonne géolocalisation, si on multiplie ça par 4, vous voyez qu'on arrive presque à 100, et comme les Américains en ont lancé au moins une trentaine, donc on est presque à plus de 100 satellites qui concernent uniquement la géolocalisation. Alors pour l'instant, y en a qui coopèrent, il y en a qui travaillent tout seuls. Est-ce que si un jour on relie tout ça, on va pouvoir géolocaliser les gens au centimètre près?
Absolument, oui. En tous les cas, il y a de l'encombrement au-dessus de nos têtes.
Et bien voilà, donc ça participe à l'encombrement dont nous avons parlé tout à l'heure.
Alors on a balayé un peu rapidement, forcément, c'est le... l'objet de cette émission aussi. Donc on a parlé du Japon, on a parlé de l'Inde, on a parlé de la Chine. Donc sur le grand thème de l'Asie dans l'espace aujourd'hui, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est quand même un continent qui est extrêmement présent et ambitieux aussi, je pense, hein, par rapport à l'Union soviétique et
à l'époque,
la NASA et l'Europe actuellement. Oui.
Oui, c'est une... on parlait coopération tout à l'heure entre les différents États. Je vous parlais des programmes médicaux. Donc, la Chine a un programme avec l'ESA qui s'appelle CardioSpace. C'est donc, comme son nom l'indique, c'est des études cardiaques dans l'espace. Donc, notamment, notre astronaute Thomas Pesquet a été sensibilisé à cette coopération.
D'accord. Donc, il peut y avoir des missions par exemple, sur la mission de Pesquet, il peut très bien y avoir des expériences chinoises, asiatiques, américaines.
Dans un futur proche, oui. Alors, comment ça va se mettre en place? Le programme est nommé, il s'appelle CardioSpace. Comment il va se dérouler? Bon, c'est pas trop encore, c'est pas trop défini.
Donc, l'Asie est présente, bien présente aujourd'hui, ambitieuse, finalement, dans le développement de l'activité de l'espace.
Présente, ambitieuse, et donc tout ça, ça fait émerger aussi d'autres puissances qui vont peut-être venir dans les années à venir dans l'espace. Donc l'Asie, donc après on est en frontière entre l'Europe et l'Asie, c'est l'Iran aussi qui commence à lancer des fusées, la Corée aussi.
La Corée,
on en parle peu. Il y a des essais, la Corée du Nord a fait des essais, c'est pas tout à fait concluant, mais ça risque dans les années à venir, que ça soit sur le plan civil ou militaire. Il y a des puissances qui cherchent le militaire, d'autres le civil et le militaire.
La mondialisation.
C'est la mondialisation de l'espace.
La mondialisation de l'espace qui est là. Pour conclure cette émission, Jean-Michel, il y a peut-être un petit peu quelques bibliographies à évoquer, certains livres ou alors certains sites aussi.
Ce sont les sites internet des agences spatiales donc internationales. Donc vous avez la NASA, bien sûr, l'ESA, Roscosmos,
soviétique.
Donc, c'est russe, oui.
Et sur l'Asie, il y a des sites
particuliers.
L'ISRO.
Voilà. Donc,
on peut les appeler peut-être.
ISRO. Voilà. Oui. La JAXA, c'est l'Inde. Voilà. Et la Chine, l'agence spatiale chinoise, donc c'est la NSA, si je ne me trompe pas. La NSA, voilà.
Eh bien, Jean-Michel, merci pour ce petit parcours, cette petite balade dans l'espace et de l'Asie. Donc, notre prochaine émission sera toujours consacrée effectivement à l'espace, la conquête spatiale. Nous vous donnons rendez-vous au mois prochain. Et bonne soirée à tous.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.